Chapitre 19. Septembre 1968, février 1969. L'instant tant attendu était enfin arrivé. Jocelyn portait dans ses bras le carton qui contenait les 5 exemplaires de son tapuscrit qui faisaient chacun 259 pages, annexes et copies des articles comprises. Elle les apportait au bureau de l'administration de New Hall, qui se chargerait de les envoyer aux membres du jury. La date de la soutenance avait déjà été planifiée pour le 18 février 1969. On laissait toujours beaucoup de temps au jury de thèse pour décortiquer le travail de plus de 3 années. Elle avait tapé le point final le 31 août, comme elle se l'était fixé le jour où elle avait tapé la première lettre du titre en majuscule. Anthony Hewish avait un peu râlé quand Jocelyn lui avait dit qu'elle voulait faire une annexe spéciale consacrée aux 4 pulsars qu'elle avait découverts. Elle avait fini par le convaincre en disant que sinon, cela paraîtrait très incongru que les seuls facsimilés d'articles qu'elle mettrait à la fin du mémoire fussent justement les papiers du 24 février et du 13 avril, qui ne parlaient absolument pas des quasars. Au moment où Jocelyn avait terminé la rédaction de son annexe sur les pulsars, le 30 août, il y avait déjà eu 5 nouveaux pulsars découverts, ce qu'elle ne manqua pas de mentionner dans son tapuscrit. Les 3 premiers nouveaux avaient été publiés le 10 août, toujours dans Nature, 2 découverts par Terry Cole et John Pilkington, et le 3e par Richard Hugnin et ses collègues de Harvard. Et puis 2 autres avaient été annoncés la semaine suivante, le 17 août, et cette fois dans l'hémisphère sud, par les Australiens Turtle et Vaughan de l'Université de Sydney. L'un des 2 pulsars australiens, qui avait été nommé PSR 2045-16, avait d'ailleurs la période la plus longue de la famille, qui s'agrandissait rapidement, avec désormais 9 membres. Celui-là avait une période de 1,96 secondes. Mais c'était toujours un pulsar de Cambridge, CP0950, qui détenait la période la plus courte. Quand Jocelyn arriva devant la porte du secrétariat des études doctorales, elle repensa à ce jour gris où elle était venue à Cambridge pour la première fois pour aller voir celui qui serait son futur directeur de thèse. Si on lui avait prédit tout ce qui s'était passé, elle ne l'aurait jamais cru. Sa thèse était sans doute l'une des thèses les plus étranges qui eussent existé, pensait-elle. Elle avait travaillé officiellement sur un sujet bien défini, la détection des quasars avec un radiotélescope à scintillation, mais malgré les centaines de pages qu'elle venait d'écrire dessus, elle savait que le sujet qui l'avait le plus occupée durant cette dernière année n'était pas la détection des quasars, mais bien ce qu'elle avait réussi à mettre en annexe. Elle était maintenant connue dans tout le pays comme la jeune astronome qui avait découvert les pulsars, ces sources radio si mystérieuses. On avait parlé d'elle dans plusieurs journaux, et d'ailleurs, personne ne lui parlait jamais des quasars. Personne ne lui parlait de ces mesures de dimension angulaire de 3C273, pourtant très intéressantes. Tout le monde lui parlait de CP1919. La soutenance du 18 février ne serait qu'une formalité maintenant. Avant même d'avoir rendu son mémoire, Jocelyn avait reçu une proposition d'un professeur de l'université de Southampton pour venir travailler dans son groupe qui développait une toute nouvelle forme d'astronomie. Il s'agissait à nouveau de construire un instrument puis de l'exploiter ensuite. Jocelyn connaissait l'histoire, mais le sujet paraissait passionnant et Martin, qui était fonctionnaire, pouvait facilement obtenir une mutation pour aller sur la côte. À Southampton, Robert Hill avait proposé à Jocelyn d'étudier le comportement de l'ionosphère, cette zone de la très haute atmosphère qui était encore mal connue, en lançant des ballons-sondes dans la stratosphère. Il fallait concevoir et construire les instruments qui seraient embarqués sous le ballon géant et il pourrait aussi être utilisé pour détecter des rayons gamma provenant de résidus de supernova. Kip Thorne et Stephen Hawking étaient devenus amis depuis qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence sur la gravitation qui avait eu lieu en Californie à l'été 1967 au milieu des fleurs. Ils travaillaient globalement sur le même sujet, mais sans avoir encore jamais collaboré officiellement. Les articles de l'un provoquaient souvent une émulation chez l'autre. Kip appela Stephen le 2 janvier pour lui souhaiter une bonne année et pour lui annoncer une autre chose bien plus importante. « Je viens de recevoir un papier pour en faire la revue dans Physical Review Letters. Tu sais quoi ?»«
Vas-y, je t'écoute, » répondit Stephen.
« Eh bien, ça y est, on a la preuve pour les pulsars. »«
La preuve de quoi ?»
Ils viennent de mesurer avec précision la position du pulsar NP0532. Il se trouve exactement au centre de la nébuleuse du crabe. C'est donc bien une étoile à neutrons.
Je l'ai toujours dit, rétorqua Stephen.
Eh bien, tu avais raison et j'avais tort. En tout cas, maintenant, on est sûr que l'explication de Gold est correcte. Les pulsars sont bien les émissions radio induites par la magnétosphère distordue au cours de la rotation. Les pulsations ne sont autres que le résultat de la vitesse de rotation des étoiles à neutrons qui sont produites dans les supernovas.
Il n'y a pas que moi qui avais raison. Jocelyn Bell, l'étudiante qui a découvert les premiers pulsars, elle aussi avait pressenti que la théorie de Gold tenait la route, et elle l'avait même compris avant d'avoir connaissance du papier de Gold.
Ah oui, elle avait du flair, mais c'est mieux d'avoir une preuve par l'observation, hein, et pas seulement du flair, hein, répondit Kip.
C'est sûr. Bon, il est vraiment solide, ce papier. « Est-ce que tu penses que je peux l'annoncer à Belle ?»« Il se trouve que je la connais un peu, et je sais qu'elle doit soutenir sa thèse le 18 février prochain. »« Ça serait bien que l'article soit publié avant cette date, pour elle. »«
Ah oui, c'est du solide. Tu peux la prévenir si tu veux. » Mais il ne faut pas trop ébruiter ça non plus. C'est déjà une petite faveur hein, que je te fais, Stephen. En tout cas, pour ce qui me concerne, ma revue, ça sera assez rapide. Mais après, il y a sans doute 2 autres vérificateurs avec ce journal. Donc, je ne peux pas faire grand-chose d'autre pour que ça aille vite. Le 18 février, c'est dans 7 semaines. Je pense que ça sera publié d'ici là, quand même.
Espérons, répondit Hawking.
Bon, si les étoiles à neutrons existent réellement, ça veut dire que les trous noirs existent eux aussi.
Tu es bien pressé, Kip. Je croyais que tu attendais une preuve par l'observation.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut avouer que les étoiles à neutrons ne sont qu'un stade intermédiaire dans l'effondrement gravitationnel. Je vais pas te l'apprendre. Il n'y a plus aucune raison maintenant pour que les trous noirs n'existent pas si les étoiles à neutrons sont réelles.
Oui, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt rassurant, en fait, de voir à quel point la relativité générale s'applique bien à l'univers, répondit Hawking, et qu'on ne fait pas tous nos calculs pour rien.
Ce n'est jamais pour rien, tu sais. Même quand ils sont faux, ils sont toujours utiles. Bon allez, je te laisse, Stephen. Prends soin de toi. Juste après avoir raccroché, Stephen appela sa femme pour savoir si elle connaissait la nouvelle adresse professionnelle de Jocelyn Bell Burnell, qui avait quitté Cambridge peu de temps après son mariage et le rendu de son mémoire. Jane ne connaissait pas le laboratoire exact pour lequel Jocelyn travaillait désormais, mais elle savait que c'était à l'université de Southampton. C'était une information suffisante pour Stephen.
Le standard de l'université le mit rapidement en contact avec le laboratoire d'études de l'ionosphère où Jocelyn avait élu domicile pour quelques années. Il prétexta la nouvelle année pour ce coup de fil inhabituel. « J'ai appris une nouvelle qui devrait beaucoup te plaire. C'est un ami théoricien américain qui vient de me l'apprendre. Il vient de recevoir un papier important pour en faire la revue. « Et il faut que je devine qui c'est ?» demanda Jocelyn. « L'auteur du papier ou mon ami ?»«
Je ne sais pas. Vas-y, je n'ai pas trop envie de jouer. De quoi il s'agit ?»«
Tu sais sans doute que récemment on avait détecté deux pulsars à proximité de la nébuleuse du crabe. »
« Oui, bien sûr. Je m'intéresse toujours à ces petites sources. Quand on pense qu'il y en a maintenant 13, alors que je dis dans ma thèse qu'il y en a 9, ça va trop vite.
»« Eh bien, dans le papier dont je te parle, ils ont mesuré la position très précise de l'un des deux, NP0532, et il se trouve très exactement au centre de la nébuleuse du crabe. Au centre. C'est donc bien ce qu'on pensait. C'est le résidu effondré de la supernova. C'est bien une étoile à neutrons. »
Stephen crut entendre le souffle de Jocelyn qui couvrait un silence de plusieurs secondes. « Merci, Stephen! Merci !» C'était donc ça! Mon Dieu, il aura fallu un peu plus d'un an pour que l'on comprenne enfin l'origine des pulsars. Je me doutais que c'était des étoiles à neutrons, je m'en doutais!
Moi, j'en étais sûr.
Cela signifie que cette étoile à neutrons est née il y a moins de 1000 ans, 915 ans très exactement. C'est fascinant! C'est fou de savoir que les astronomes chinois du XIe siècle ont observé la supernova et que nous, maintenant, nous voyons le résidu de cette explosion. Une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même 30 fois par seconde, dit Jocelyn.
Oui, la théorie de Thomas Gold était bien la bonne. J'en étais sûr. En cosmologie, il dit vraiment n'importe quoi, mais là, il a vu juste.
Les Américains ont peut-être trouvé la bonne théorie et la preuve définitive, mais les Anglais ont découvert la plupart des sources. L'honneur est sauf, répondit Jocelyn.
Oh, mais Gold n'est pas vraiment américain. On peut même dire qu'il est anglais. Il a passé de longues années ici, tu sais, même à Cavendish, juste après la guerre.
À Cavendish?
Oui, c'était un ami de Hoyle à l'époque. Et même encore maintenant, j'imagine. En tout cas, ils n'en démordent pas sur leur univers statique. Sans Big Bang. Même après la découverte du rayonnement micro-ondes, il continue à nier l'évidence. C'est bien les seuls. C'est presque étonnant qu'il ait trouvé la bonne solution pour les pulsars.
C'est à cause de son passé et de ses positions en cosmologie que son papier de l'année dernière n'a pas fait plus de bruit ? Demanda Jocelyn.
C'est très possible. Mais moi, j'ai tout de suite su qu'il avait trouvé la solution. Ça collait tellement bien, continua Stephen.
Je me rappelle le séminaire de Hoyle en mai dernier. Quand tu avais dit que l'idée que j'avais lancée était la bonne et que son papier allait sortir, je comprends mieux la réaction de l'auditoire maintenant.
En tout cas, pour ce nouveau papier qui démontre que le pulsar du crabe est un résidu de supernova, donc une étoile à neutrons. Je ne peux pas te dire quand est-ce qu'il sera publié. Ce que je sais, c'est que ce sera dans Physical Review Letters. Ça serait mieux pour toi qu'il soit publié avant ta soutenance, j'imagine. C'est toujours prévu le 18 février?
Oui, le 18 février, ça se rapproche, hein. Effectivement, ça serait vraiment bien si je pouvais affirmer quelle est la nature des pulsars avec cet article comme preuve.
J'ai demandé à mon ami américain qui, s'il pouvait aller vite pour sa revue. Il y aura plusieurs reviewers de toute façon, mais il m'a assuré que lui, il rendrait sa copie très vite.
Et c'est quelqu'un que je connais, alors, ton ami?
Tu veux bien jouer? Alors, c'est ça? Ok. Alors, son prénom commence par un K.
Keep Thorne! Cria Jocelyne.
Mais comment tu as trouvé?
C'était un mercredi pluvieux, comme souvent le mercredi. On était le 17 février. Il était un peu plus de 17 heures quand Stephen Hawking reçut un appel téléphonique. C'était Kip Thorne. Je t'avais promis d'aller le plus vite possible pour le papier sur le pulsar du crabe, hein. Tu te souviens, début janvier. Tu m'avais parlé de la fille qui a détecté les premiers. Ah, oh, j'ai oublié son nom.
Jocelyne Bell.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Il vient d'être publié dans le numéro d'aujourd'hui. C'est tout frais. Je l'ai sous les yeux. Je voulais te prévenir parce que tu m'avais dit que la soutenance de...
Jocelyne Bell.
Oui, tu m'avais dit qu'elle était fin février et qu'il serait bien que le papier soit publié avant.
En fait, sa soutenance, ce n'est pas à la fin du mois, c'est demain.
Demain?
Oui, demain.
Mais vous n'aurez jamais Physical Review Letters en Angleterre avant demain. C'est impossible, répondit Kip.
Ce n'est pas très grave. Si tu me dis tout de suite les grandes lignes de ce qui est écrit, je pourrais peut-être donner ces informations à Jocelyne avant demain matin, si j'arrive à la joindre. Ce serait possible que tu fasses ça pour moi? Enfin, pour elle? Je n'ai pas besoin des détails, mais vraiment des choses importantes qu'il mentionne. Tu vois, je prends des notes.
Ok, Stephen, ok, on peut faire ça. D'abord, le titre de l'article, c'est simplement Crab Nebula Pulsar NPO527. Il ne pouvait pas faire plus court. Et les auteurs, c'est des gars de l'Observatoire national de Green Bank, Edward Riefenstein, William Brundage et David Stalin. La référence bibliographique exacte, c'est le volume 22, numéro 7 de Physical Review Letters, à la page 311. C'est bon? Tu arrives à me suivre?
Oui, Kip, tu peux continuer.
Ok, je continue. Kip Thorne dicta le résumé complet qui apparaissait juste en dessous du titre et de l'affiliation des auteurs, puis parcourut l'article qui tenait sur une seule page. Les radioastronomes américains parlaient en fait de deux pulsars très proches l'un de l'autre, séparés par seulement 1,2 degré. NP0527 se trouvait à 5h26 et 10 secondes d'ascension droite et 22 degrés de déclinaison, tandis que NP0532 était situé à 5h31 et 23 secondes et 22 degrés et 4 minutes. Or, il rappelait que le centre de la nébuleuse du crabe, alias Messier 1, se trouvait à 5h31 et 30 secondes et 21 degrés 58 minutes. NP0532 était donc un pulsar dont la position correspondait aux incertitudes près, à l'endroit de la supernova qui avait produit la célèbre nébuleuse. Ils évaluaient ensuite la vitesse de NP0527 en considérant qu'il se trouvait à la même distance que la nébuleuse et trouvaient une vitesse gigantesque de 15% de la vitesse de la lumière. Mais le plus important, c'était la position précise de NP0532. Stephen appela aussitôt le numéro qu'il avait noté à l'université de Southampton pour annoncer la nouvelle à Jocelyn et lui offrir les informations que lui avait données Kip. Jocelyn était malheureusement absente. Stephen appela Jane pour qu'elle lui donne le numéro des Burnell, en lui précisant que c'était très urgent et très important pour Jocelyn. Il était presque 18h quand Stephen eut enfin Jocelyn au bout du fil. Elle devait prendre le train le lendemain très tôt pour rejoindre Cambridge et était dans les derniers préparatifs dans le choix de ce qu'elle allait porter pour la soutenance. Il lui raconta tout ce qu'il avait noté. Elle pourrait citer sans rougir, lors de sa soutenance, cet article qui prouvait que le pulsar NP0532, qui avait une période de 33 millisecondes, était bien un résidu de supernova, et donc une étoile à neutrons, et elle pourrait même donner sa position exacte, alors même que personne en Angleterre n'avait encore reçu le numéro de Physical Review Letters paru la veille. C'est magnifique! Magnifique! Dit Jocelyn. La soutenance avait lieu en public. De nombreux curieux s'étaient déplacés de tous les collèges de Cambridge. L'amphithéâtre était complet, ce qui ne semblait pas impressionner le moins du monde Jocelyn, qui évitait de trop regarder la salle. Sa famille avait fait le déplacement depuis l'Irlande du Nord et se trouvait au troisième rang. Elle avait aperçu Stephen et Jane en haut des gradins et leur fit un petit signe de la main en souriant. Il faisait étonnamment chaud en ce début d'après-midi dans ce grand amphithéâtre réservé aux soutenances de diplôme. Le tableau avait été soigneusement nettoyé la veille au soir et tout avait été préparé pour accueillir confortablement les 6 membres du jury qui venaient de plusieurs universités britanniques. Anthony Hewish siégeait parmi eux, à l'extrême droite de la rangée. L'écran blanc avait été tiré et le projecteur de diapositive était déjà chaud. Jocelyn avait vérifié que l'ordre de ses diapositives qu'elle avait fait faire par l'université 3 semaines plus tôt était le bon, en les regardant une par une, rapidement, devant une lampe du plafond. Mais en les remettant dans le chargeur du projecteur, elle laissa la dernière sur la table. Une fois que le président du jury prit la parole, le silence se fit immédiatement, et après l'introduction d'usage, il laissa la parole à l'impétrante pour une durée maximum d'1h30 pendant que l'éclairage de l'amphithéâtre était diminué pour pouvoir profiter au mieux de la projection des diapositives. Jocelyn déroula la présentation de son travail de thèse en suivant rigoureusement le plan de son mémoire de thèse. Tout le monde l'écoutait avec une grande attention, jury comme auditoire dans les gradins. On apprit comment fonctionnait l'Interplanetary Scintillation Array qu'elle avait si patiemment construit, ainsi que les récepteurs et les enregistreurs qui lui avaient permis d'analyser les signaux. Elle s'arrêta assez longuement sur les mesures qu'elle avait effectuées sur le fameux quasar 3C273 qui continuait malgré tout à faire encore parler de lui 6 ans après la découverte de sa distance cosmologique par Schmidt. Elle fit un aparté sur les difficultés qui étaient inhérentes à la radioastronomie d'aujourd'hui, du fait des interférences électromagnétiques qui étaient omniprésentes dans les signaux qui étaient détectés et qui rendaient le travail des astronomes parfois très difficile. Puis elle vint aux résultats qu'elle avait recueillis sur 194 sources radio qu'elle avait détecté dans un relevé systématique du ciel entre les déclinaisons moins 7 degrés et plus 44 degrés. Elle enchaîna assez vite plusieurs diapositives qui montraient des tableaux de chiffres. La majorité de l'auditoire n'avait pas pris connaissance du titre de la thèse de Jocelyn et s'attendait à ce qu'elle parle des pulsars. Au bout d'une heure, on sentait une certaine impatience dans les travées. Jocelyne savait qu'elle devrait en parler, alors que c'était complètement hors sujet. Elle avait donc réservé le dernier quart d'heure pour ne parler que de ces quatre sources pulsées, les pulsars CP1919, CP1133, CP0834 et CP0950, sans en avoir touché un mot au préalable à son directeur de thèse. Elle se lança en prononçant la phrase « Et maintenant, voici quelque chose de complètement différent. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, ce travail de thèse a été l'occasion de découvrir certaines sources radio très atypiques. Et je me dois de vous en parler, car sans l'Interplanetary Scintillation Array, qui est au cœur de mon travail de thèse, ces sources n'auraient jamais pu être identifiées. » Jocelyn raconta en détail sa découverte en décrivant chronologiquement les travaux entrepris à partir du 6 août 67 et jusqu'au mois de février 68. Mais elle mentionna aussi quelques données qui avaient été mesurées par John Pilkington en mars et qui apparaissaient dans l'article du 13 avril. Jocelyn précisa qu'à la date de la rédaction de sa thèse, il n'existait que 9 pulsars, mais qu'il en existait maintenant déjà 13, et que leur nombre allait sans doute exploser dans les mois et les années qui allaient suivre. Au bout de 10 minutes, elle en arriva aux explications théoriques qui avaient été envisagées jusqu'à aujourd'hui pour expliquer ces sources radio pulsées. Parmi tous ces modèles, il y en a un en particulier qui vient de trouver une fantastique preuve observationnelle très récemment. Elle croisa brièvement le regard de Anthony Hewish, qui la dévisageait avec un étonnement teinté de crainte. « Je viens de recevoir cette information très importante en provenance des États-Unis. Un article vient d'être publié hier dans Physical Review Letters, dans le volume 22, le numéro 7, à la page 311. » Jocelyn chercha du regard Stephen et Jane vers les rangées du haut. « C'est un article de Edward Raffenstein, William Brundage et David Stanin de l'observatoire de Green Bank. » Il montre que le pulsar NP0532 se trouve exactement au centre de la nébuleuse du crabe. Le modèle de Thomas Gold, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, apparaît donc être une très bonne solution pour expliquer les pulsars. Ce seraient donc des étoiles à neutrons en rotation rapide, ce que le résidu de supernova de la nébuleuse du crabe nous confirme si brillamment. La pulsation du signal que nous observons ne serait donc que la trace de la rotation de l'étoile à neutrons qui émettrait un fin faisceau d'ondes radio à partir soit de sa surface, soit de sa magnétosphère. Ce point reste encore à déterminer. L'observation des pulsars nous permet donc de démontrer directement qu'il existe bel et bien des étoiles à neutrons, des astres qui étaient jusqu'à aujourd'hui des objets hypothétiques. En même temps, c'est tout le mécanisme de l'effondrement gravitationnel qui prévoit l'existence d'une phase dégénérée faite de neutrons qui s'en trouve validée, ce qui indique la très probable existence de la phase ultime de ce processus qui est constitué par ce qu'on appelle des trous noirs. Jocelyn n'avait pas montré la dernière diapositive qu'elle avait fait fabriquer, dans laquelle elle posait une question en conclusion. Naine blanche ou étoile à neutrons? Pour évoquer la solution théorique la plus probable. La diapositive était devenue obsolète. Le président la remercia pour son exposé, puis les 7 membres du jury se retirèrent pour délibérer, alors que de nombreuses personnes descendaient les travées pour aller féliciter l'impétrante.